Vous êtes sur RTL.
RTL Matin, Agnès Bonfillon, Stéphane Carpentier.
Dimanche 9 février de cette année 2020. Bonjour Agnès.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
D'abord, l'information de la nuit, c'est cette alerte enlèvement.
C'est Vanille, une petite fille de 1 an qui est recherchée. Bonjour Alice Moreno.
Bonjour.
Sa mère est la principale suspecte.
Oui, une femme d'une quarantaine d'années qui aurait enlevé sa propre fille hier vers 17h30 au niveau du 3 rue Lebas à Angers. La petite Vanille a tout juste 1 an. Elle est métisse, a les yeux noirs, les cheveux bruns, courts et frisés. Elle mesure 1 mètre. Sa mère a donc 40 ans, serait vêtue d'une doudoune et d'un legging. Elle est susceptible de se déplacer dans les transports en commun angevin. Si vous localisez l'enfant, le ministère de l'Intérieur rappelle que vous ne devez pas intervenir vous-même. Vous devez immédiatement appeler le 197, le numéro alerte enlèvement.
Merci beaucoup Alice pour toutes ces précisions. Appelez le 197 effectivement. Vous pouvez même envoyer un mail à l'adresse suivante alerte.enlèvement@intérieur.gouv.fr.
L'actualité Agnès, ce sont ces 5 nouveaux cas de coronavirus en France, au Contamine Montjoie précisément.
Oui, les 4 adultes et l'enfant concernés sont des Britanniques ayant côtoyé un compatriote de retour de Singapour. Tous se trouvaient dans le même chalet de Haute-Savoie. Hospitalisé dans la nuit de vendredi à samedi, l'état des patients ne présente aucun signe de gravité, selon la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui doit d'ailleurs se rendre sur place aujourd'hui. Dès hier, une réunion publique a eu lieu pour informer les habitants, Bertrand Frachon, sachant que l'enfant contaminé a fréquenté 2 écoles sur place.
La salle des animations des Contamines affichait complet hier soir. Des parents d'élèves, des commerçants ou des touristes, tous voulaient en savoir plus, comme ce responsable du ski club local dont l'enfant malade était membre. Face à ces questions, le médecin de l'ARS s'est efforcé de rassurer.
En tant que responsable d'une association Contamines, dont l'enfant apparemment fait partie, j'ai déjà eu des coups de fil. Donc j'aimerais savoir quel message je dois transmettre aux familles qui sont aussi dans cette association.
Il n'y a aucune justification aujourd'hui à arrêter les activités. La vie continue aux Contamines, il n'y a pas de risque particulier au niveau des Contamines. La grippe touche beaucoup plus de personnes que le coronavirus sur notre territoire et même aux Contamines.
Mais pour certains parents dont les enfants ont été en contact avec le jeune écolier anglais malade, l'inquiétude demeure.
Ça fait quand même peur, voilà, c'est ce que je disais, mon fils sort de 5 jours de grosse fièvre. Là, il n'en a plus, mais est-ce que c'est une grippe, est-ce que c'est autre chose, on ne sait pas.
C'est une petite école, ils sont 100 d'élèves. C'est vrai qu'ils se côtoient à la cantine, inévitablement, ils ont été en contact pendant les dernières semaines.
Les autorités sanitaires l'ont répété, en l'absence de toux ou de fièvre, pas d'inquiétude à avoir. Les enfants de l'école peuvent, quant à eux, bénéficier d'un dépistage préventif.
Le reportage de Bertrand Frachon pour RTL, que l'on retrouvera tout à l'heure à 9h sur place. Les 2 écoles dans lesquelles l'enfant britannique de 9 ans a pris des cours vont être fermées la semaine prochaine. Il est évidemment demandé aux parents d'élèves de surveiller l'éventuelle apparition de symptômes. Sachez que les 5 vacanciers ayant fréquenté d'autres personnes, en tout, ce sont 11 personnes qui sont hospitalisées. Pendant ce temps-là, en Chine, l'épidémie progresse encore. Le bilan fait état de plus de 800 morts. C'est plus que le virus du SRAS. En Thaïlande, une tuerie sans précédent dans le nord-est du pays. Un soldat a tué 3 personnes sur une base militaire avant d'en abattre 24 autres dans un centre commercial. Le massacre a duré plus de 24 heures. Le tueur a finalement été abattu il y a quelques heures par les forces de l'ordre. Selon les autorités, il aurait été motivé par des problèmes personnels liés à la vente d'une maison.
Chez nous, Agnès, arrêtons-nous sur les bons élèves des pistes cyclables. Le classement des villes de plus de 200 000 habitants a été rendu cette semaine.
Sur le podium se trouvent Strasbourg, Nantes et Rennes. En revanche, contrairement au ballon rond, Marseille est lanterne rouge en la matière. La cité phocéenne est pointée du doigt pour l'immense sentiment d'insécurité que ressentent les cyclistes. Et puis tout simplement le manque de vraies pistes cyclables, Hugo Hamelin.
Oui, alors il y a le traditionnel camion de livraison qui n'en a que pour 2 minutes, mais aussi des particularités locales avec des pistes cyclables qui se terminent dans un conteneur à poubelle ou en plein milieu d'une rue, par exemple. Bruno part travailler en vélo et considère qu'ici, c'est un acte militant.
Le premier truc, c'est le manque de continuité, le manque de signalisation, le manque de communication autour de ça. C'est surtout culturel, c'est déjà une affaire de volonté. Et c'est pas de peindre des vélos sur une chaussée goudronnée qui suffit à créer une piste cyclable. Ça, c'est beaucoup trop insuffisant, quoi.
Et pourtant, Marseille s'est doté d'une magnifique piste cyclable le long de la mer sur la Corniche il y a quelques mois seulement. Mais c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt.
Alors le classement, c'est malheureusement pas une surprise.
Émilien fait partie du collectif Vélo en Ville.
C'est bon pour la santé, c'est bon pour la rapidité. Le vélo est le moyen de déplacement le plus rapide pour les déplacements de moins de 3 km en ville. Et donc en fait, quand on prend tous les avantages, on se rend compte qu'il n'y a pas de raison de lui donner une place aussi petite actuellement dans les politiques d'infrastructure.
Le vélo, enjeu électoral. Son association réunira tous les candidats aux élections municipales de Marseille pour entendre leurs propositions. À ce sujet, ce sera le 20 février prochain.
Le reportage d'Hugo Hamelin à Marseille pour RTL.
Restez bien avec nous dans un instant, la suite du journal d'Agnès Bonfillon. Et une question, quel avenir pour la Fédération française des sports de glace après la démission de Didier Gayaguet ?
RTL Matin.
Suite du RTL Matin, 8h08, Agnès Bonfillon, Stéphane Carpentier.
Plus d'une semaine sous pression et finalement il jette l'éponge. Didier Gayaguet n'est plus président de la Fédération française des sports de glace.
Les violences sexuelles subies par d'anciennes patineuses, abusées par des entraîneurs, provoquent un très gros scandale. Des joutes verbales avec la ministre des Sports qui lui demandait de démissionner. Chose que celui qui régnait sans partage sur le patinage français depuis 19 ans n'envisageait pas visiblement. Eh bien Didier Gayaguet n'a pas eu le choix. L'intérim sera assuré par la présidente du Conseil fédéral, puis une nouvelle équipe sera mise en place dans les 3 mois. D'anciens champions comme Guindal, Pezra ou Philippe Candelro pourraient en faire partie. En tout cas, ce dernier espère un très grand ménage.
Je prends une bonne note de cette démission. De toute façon, c'était, je pense, inévitable hein, pour le bien du monde du patinage qui a été quand même pas mal secoué ces derniers temps. On va dire qu'il y a une partie de la cagette qui est partie, mais voilà, il y a d'autres personnes qui ont été affectées par le même style de gestion. On a un collectif d'anciens champions de patinage qui souhaitent collaborer avec le ministère pour repartir sur de bonnes bases. Avec ce collectif, on pense que c'est... très mauvaise idée de laisser continuer en fait la vice-présidente qui a été nommée avec l'ensemble des membres du bureau dans la même gestion qui fonctionnait jusque-là, parce que sinon dans quelques mois on repartira comme en l'an 40 et il n'y aura rien eu de changé. Donc il faut peut-être saisir cette opportunité pour on va dire repartir à zéro, surtout de se servir de ce que malheureusement Sarah Abitbol et d'autres victimes ont subi, que plus jamais ça puisse se reproduire.
Philippe Candelro qui répondait à Thomas Dulin pour RTL. Depuis 6 ans, Renaud Lavillény détenait le record du monde du saut à la perche avec 6,16 m. Eh bien, c'est fini. Désormais, c'est le Suédois Armand Duplantis qui règne en maître sur la discipline. À 20 ans à peine, il a franchi une barre à 6,17 m hier en Pologne. Ça promet du beau spectacle aux prochains Jeux Olympiques cet été. Et à ce propos, les basketteuses françaises feront partie de l'aventure. Elles ont validé leur ticket en battant le Brésil 89 à 72 hier à Bourges. Le foot, on ne parle plus de sardines à Marseille, non Stéphane, mais de dauphins. Et un dauphin, un beau dauphin quoi, du championnat. Nouvelle victoire de l'OM hier lors de la 24e journée de Ligue 1, 1-0 face à Toulouse. Les Monégasques reviennent enfin, ils l'ont emporté à Amiens 2-1. Même score pour Bordeaux contre Metz, 3 partout entre Dijon et Nantes, aucun but entre Rennes et Brest. Les Aiglons, eux, ont du plomb dans l'aile, Nîmes l'a emporté à Nice, 3-1. Parmi les matchs à suivre aujourd'hui, le choc PSG-Lyon à 21h. Ce sera à vivre en direct sur RTL dans Soir de Ligue 1. Neymar ne sera pas sur le terrain, il est forfait hein, pour blessure.
Formidable football tout en images. Transformer l'essai, plus que jamais le 15 de France de rugby va devoir prouver qu'il est invincible.
Mais oui, à 16h, il reçoit l'Italie au Stade de France. Après la très belle entrée en matière hein, de nos Bleus la semaine dernière, 24-17 contre l'Angleterre. Ils peuvent être confiants même s'il ne faut jamais, jamais, jamais se reposer sur ses lauriers. Ils peuvent encore mieux faire, selon notre consultant Christophe Dominici, qui se montre très exigeant.
Ouais, c'était assez significatif par le passé, hein, le yo-yo. Hein. Un coup en haut, un coup en bas, on sait que c'est très français. Il y a eu de l'intensité, de l'enthousiasme, de l'appétit, un investissement total contre l'Angleterre. Et l'Italie, on attend toujours plus. On ne peut pas dire que sur le jeu contre l'Angleterre, on ait fait des lancements de jeu, une organisation. On a très bien défendu, on a contré. mais on n'a pas lancé le jeu. On n'a pas imposé des longues séquences. Et forcément, on attend ça contre l'Italie. Comment on va les jouer, où on va les prendre, l'alternance. Et là, on souhaite que l'équipe de France, elle puisse maîtriser son sujet comme une grande équipe, parce qu'elle a mis la barre très haute contre les Anglais sur le point de vue défensif. Appétit, fraîcheur mentale et physique. Là, on attend une équipe qui maîtrise totalement son sujet. Cette équipe de France doit encore nous montrer qu'elle est capable de monter son niveau d'exigence mentale. On sait qu'elle va battre l'Italie. Il n'y a pas de match. Tout le monde le sait. Mais comment on va les battre? Et là, on les attend sur ça. Comment on va faire ce match? Où on va les jouer? Où on va les amener? Et tout ça, on ne l'a pas vu contre les Anglais. On veut le voir contre l'Italie.
On veut le voir cet après-midi à 16h. Christophe Dominici avec Jean-Michel Rascol pour RTL. Rappelons les résultats de ce samedi. L'Irlande a vaincu les Gallois 24 à 14 et victoire de l'Angleterre face à l'Écosse 13 à 6.
Et puis Agnès, le cinéma Les Misérables sur le tapis rouge d'Hollywood, ce sera la nuit prochaine.
Oui, nommé dans la catégorie du meilleur film étranger, le long métrage de Lajli se retrouve en compétition avec notamment la Palme d'Or à Cannes. Parasite, statuette ou pas, ce long métrage, basé sur une bavure policière en banlieue parisienne, a déjà fait le plus beau des parcours, Stéphane Boutsock.
Oui, on pourrait d'ailleurs presque rebaptiser le film. Les Misérables sont devenus les Magnifiques. Grand prix du jury à Cannes, 2 millions d'entrées en France, 11 nominations au César et donc ce soir, les Oscars. Lajli, le gamin de Montfermeil devenu cinéaste, aura forcément les yeux qui brillent tout à l'heure au milieu des stars d'Hollywood.
Très bon délire, un esprit positif, content, fier de représenter la France. Film de banlieue, qui parle de banlieue, fait par un mec de banlieue. J'espère que ce sera un message positif avant tout pour toute cette jeunesse. Ils pourront se dire aujourd'hui on peut partir de rien du tout et arriver au sommet.
Mais restons modestes, le film de Lajli aura face à lui deux adversaires de taille, Douleur et Gloire d'Almodovar et le grand favori, Parasite, la palme d'or du sud-coréen Bong Joon-ho.
On a très peu de chance face à ce film. Mais voilà, moi je me disais, si on peut être aux Oscars, déjà c'est pour moi déjà une victoire.
Verdict, cette nuit à Los Angeles, aux alentours de 3h du matin, heure française.
Merci Stéphane Boutsock, sachant que cette cérémonie sera à suivre toute la nuit prochaine en direct sur notre site rtl.fr.
Agnès Bonfillon vous a informé, elle revient tout à l'heure à 9h, bien sûr, elle sera à nos côtés pour tout vous dire. On vous attend sur la page Facebook, sur les SMS comme d'habitude, informez-nous notamment sur la tempête qui approche, sur le vent, ça va monter en puissance au fil des heures et particulièrement à partir du cœur de l'après-midi. Les chevaux, Isabelle.
Et bien direction Vincennes.